Ε?
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 991, en ce samedi 3 septembre 2016. On vient de démarrer avec Julien Brunto, le tout nouvel album du mois hein, de septembre qui s'appelle Playground, un album qui sort en ce moment ou qui va sortir dans les jours à venir. Ne soyez pas impatients, vous allez pouvoir en avoir quelques extraits aujourd'hui dans cette 991e émission. Deux invités de marque, et oui, aujourd'hui, vous le savez, c'est Jacques Gasser, éditeur, et Jacques Morgantini, grand historien du blues que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure au micro de Radio 666 à partir de 13h15, Jacques Gasser qui nous parlera de lui et qui nous parlera de l'autre et de Jacques, les frères Jacques si on peut dire, hein, voilà, les frères Jacques du blues, et puis Jacques Morgantini, vous allez le découvrir. Je vous en dis pas plus parce que je pense que le premier Jacques Gasser vous en parlera abondamment, et puis si vous étiez au Cahors Blues Festival le mois de juillet 2016, eh bien vous en savez encore un petit peu plus long que les autres. Je vous en dis pas plus. On continue et on va écouter les deux titres juste avant d'attaquer cette première interview. Ceci, c'est donc Matt Walklett, l'anglais, et Paolo Fuschi, l'italien, dans l'album Kicking Up the Dust, un album qui était à gagner jusqu'à aujourd'hui sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Il y a d'autres petits cadeaux qui arrivent. Allez voir, hein, page cadeau. Ça s'appelle Fat Man. À tout à l'heure.
Thank you.
leave my girl alone. Hey, you fat man, leave my girl alone. Now if you don't have a girl, go and get one of your own. Cause she's a one-man girl, she's a one-man girl alone. Yeah, she's a one-man girl, she's a one-man girl alone. Now if you don't have a girl, go and get one of your own. Well, all night long you keep a running around my home. Yeah, all night long you keep a running around my home. Now if you don't have a girl, go and get one of your own.
Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 666 Radio 666 de 13h à 16h, un samedi sur deux, c'est Sweet Home Chicago, le samedi d'après c'est la rediff. Là on vient d'entendre Matt Walklate et Paolo Fuschi dans l'album Kicking Up The Dust. C'est trop tard pour gagner ce disque, mais il y en a trois autres. Si vous allez sur le site internet de l'émission blues.radio666.com, on a démarré tout à l'heure avec Julien Brunetto et on va poursuivre avec une autre nouveauté, un truc superbe qui est arrivé de la part de Betsy Brown Blind Raccoon. Il s'agit du tout de l'album de Grady Champion qui s'appelle One of a Kind. Ça sent, ça sort le Chitlin Circuit, je peux vous dire, ce genre de 12 titres là. On va écouter bah, au hasard parce que tout est bon. Voici Leave Here Running, c'est monsieur Grady Champion.
But a streak, and time again. Every time I see you talking to another man, I'm gonna leave you running, baby. And I ain't looking back. Well, you won't see nothing but a streak. God, you best believe that. She was giving you a battle thrill. I'm gonna leave you running, baby. And I ain't looking back. You won't see nothing but a screen. God, you best believe that. Well, you say y'all been friends ever since you were a child. What I seen you doing, girl, it shouldn't been a lie. I'm gonna leave you running, baby.
Voilà, magnifique album. C'est une nouveauté hein, dans Sweet Home Chicago, l'album One of a Kind de Grady Champion qui sort chez Malaco. Et oui, Malaco continue à enregistrer de grands artistes comme Grady Champion, par exemple. On poursuit d'ailleurs, juste au passage, il rend hommage à ZZ Hill sur l'un de ses titres. Voilà. On va attaquer le vif du sujet dans, allez, 3 minutes 27, c'est-à-dire juste à la fin du titre qui arrive. Ce sera Jacques Gasser pour vous au téléphone. Je vous rappelle que vous avez également rendez-vous sur le Facebook Sweet Home Chicago. Si vous avez vous-même des questions à poser, vous suivez le fil d'actu, vous allez jusqu'à Sweet Home Chicago. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est mal, mais vous allez pouvoir rattraper ça tout de suite. Il suffit de cliquer accepter et puis voilà. Et voilà, vous avez des questions à poser à Jacques Gasser ou à Jacques Morgantini. Eh bien, c'est tout de suite ou maintenant, comme vous voulez. On est en direct live depuis les studios du 666 et voici un certain John Lee Hooker.
Hear the chords here. I want to show you. A whole lot of people ask me where I originated my beat from. But I heard from way back, a long time ago. Now I'm just starting out in the music world. Professional. But I was born with this here, though. But I just discovered there's a big thing going. This is the year of 1953. I'm just getting started. Let me show you something on them about this chord here. Hold your hand right there and work your thumb, kind of beat like. It's not, ain't no a lot of chords to it, but just a big beat. And I sound just like a whole band. Now you dig it. And dig my feet. You can do it if you try. Yes, yes, with a big soul. Now you're cooking with gas. Yes, the pot's on now. Oh, you're working now. This old tune my stepfather taught me. I was around 13 years old. He said, son, get this beat, and you'll have something here. And believe me, boy, I dug it, and I got it. At 49, I got my start. And I clicked, tremendous big hit I had. Boy, I got it. Now here it is, 1953. I'm writing this tune here. I'm teaching the blues to this cat. Yeah, now you're cooking. Make that old fiddle talk, boy. It's just a beat. These fancy chords don't mean nothing if you ain't got that beat. Throw the fancy chords away and just get this slow beat.
Voilà, monsieur John Lee Hooker, pour introduire cette première série d'interviews. Pour aujourd'hui, Jacques Morgantini tout à l'heure, Jacques Gasser tout de suite. Jacques, bonjour.
Ah, Jacques n'est pas encore là, il
n'est pas là, il n'est pas là, il arrive. Bonjour, Jacques Morgantini alors.
Moi, c'est Jacques Morgantini, ah, ben voilà.
Comment ça va depuis tout à l'heure, on s'est eu au téléphone.
Voici qui arrive à Brive-la-Gaillarde.
Voilà, il est en train d'enregistrer l'émission, ça c'est une très très bonne chose. On va se parler tout à l'heure, Jacques Morgantini, avec grand, grand plaisir. Un bel honneur pour Sweet Home Chicago, pour moi-même, pour tous les auditeurs, je crois, qui ont entendu parler de vous et qui vont en entendre parler encore aujourd'hui. Jacques Gasser est avec nous au téléphone. Jacques, bonjour.
Bonjour, Marc.
Tu étais parti à la cuisine pour enregistrer l'émission, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Alors, à feu doux, surtout à feu doux, hein, pas plus de 3 ou 4 le thermostat, parce que sinon, après, ça colle. Ça colle au fond.
J'ai oublié d'ouvrir le couvercle.
C'est ça. Ah ben voilà. Donc, manque de préparation, certain, effectivement.
pourtant, Dieu sait s'il a fallu que je sois méthodique. Hein.
Jacques, je suis très heureux de parler à quelqu'un qui a eu la bonne idée de naître un 18 juillet.
Ah oui.
Oui, parce que ça, c'est une chose. Voilà, c'est un synonyme de. Il faut avoir la classe, moi, je trouve. Déjà, première chose. Et puis, en quelques mots, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Jacques Gasser, peut-être dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ce que tu vas faire. Tu es le réalisateur, concepteur de ce double DVD Mémoire de blues, dont on va abondamment parler aujourd'hui, qui est sorti début 2016, c'est ça?
Oui, le début février 2016. Oui.
Voilà. Mais pas que, j'ai envie de dire. Tu es quelqu'un qui a une formation dans l'éducation spécialisée, mais également dans les technologies, quelles qu'elles soient, audiovisuelles.
Oui, je suis pédagogue idiovisuel.
Pédagogue idiovisuel, je vais la retenir, celle-là. Ça va peut-être me servir un jour de la replacer.
Éducateur spécialisé et pédagogue idiovisuel surtout. Et en plus, spécialiste de l'orientation professionnelle adaptée à des publics en grande difficulté.
Et ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les auditeurs par rapport à la musique, c'est que tu as eu déjà dans ton passé des rencontres avec des gens qu'on connaît ici dans Sweet Home Chicago. Je pense à Nico Wayne Toussaint, je pense au groupe Blues and Trouble avec Michel Foison et Gladys Amorose, par exemple.
Ben oui, c'est-à-dire que j'ai enregistré la première cassette de Michel et Nico, quand il jouait avec son père, Nico, c'était le premier groupe qui s'appelait Vent du Sud.
Oui.
Et donc j'ai enregistré la première cassette, il n'y avait pas de CD à l'époque, pour tout ce petit monde qui a pu faire sa première tournée d'été à l'époque. Voilà.
C'était quand, dans les années 80, c'est ça?
95.
95, d'accord, voilà. 95.
Exactement, j'ai enregistré ça ici, dans le petit centre audiovisuel rural, le premier centre audiovisuel rural du Grand Sud-Ouest, pour en ruralité, et on a enregistré ça, mais ça, il faudra faire parler Nico et Michel sur cet enregistrement assez épique.
Ben, on n'en a pas parlé la dernière fois, c'est vrai qu'on a eu Michel Foison et puis Gladys Amaros au téléphone il y a quelques semaines pour parler d'un album qui était sorti, Journey into the Blues. On n'a pas parlé de cette époque-là, les années 90, mais on a parlé abondamment des années 2000 et puis 2010, Blues and Trouble. Il y a une interconnexion comme ça dans le Grand Sud-Ouest entre les musiciens. Enfin, en tout cas, on le ressent d'ici. Hein, on est très très loin ici en Normandie, tu penses. Je sais pas. J'ai l'impression qu'entre musiciens et puis entre gens qui gravitent autour de la musique, il y a une espèce d'osmose qui fonctionne peut-être un peu plus qu'ailleurs.
Ben, c'est-à-dire que ici, les musiciens sont très respectueux les uns des autres et ils se cooptent les uns les autres pour jouer ensemble, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan amical. Et il y a, c'est les fêtes de Bayonne tous les jours chez les musiciens.
Les fêtes de Bayonne. Alors, Bayonne, Pau, voilà, tout ça, c'est le Grand Sud-Ouest. Il s'en est passé des choses à Pau. Toi, tu as toujours vécu dans cette région-là?
Non, à l'origine, je suis lorrain.
D'accord.
Au pied des Vosges, enfin, près de l'Alsace. Et je suis arrivé dans le sud-ouest, dans les Landes, comme éducateur, si tu veux.
Oui.
Et voilà. Et puis ensuite, j'ai choisi de venir habiter ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, parce qu'il y avait tout. Je voulais faire beaucoup de spéléo, de montagne, d'océan.
Et puis il y a des truites dans les rivières aussi.
Aussi, voilà. Ça c'est autre chose. J'ai aussi réalisé un documentaire qui s'appelait Chasseurs de truites. Et qui était en relation avec des chercheurs de l'INRA sur la biologie, etc. La vie de la truite fario, c'est la truite sauvage des Pyrénées. Voilà.
C'est assez rare, Jacques Gasser, de rencontrer quelqu'un qui s'occupe à la fois de la forme et du fond. C'est-à-dire que quand tu édites quelque chose, j'ai l'impression que tu fais tout de A à Z, que ce soit de la première conception de l'idée jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'objet final.
Bah, c'est-à-dire que c'est peut-être... par des formations professionnelles, puisque quand on travaille avec des publics en grande difficulté, il faut se mettre à leur place, c'est-à-dire qu'il faut penser à leur place, c'est-à-dire qu'il faut pas être technicien, il faut être d'abord, cognitiviste, si on peut employer un terme savant, c'est-à-dire se mettre à penser comment ils apprennent ou comment ils pensent, de façon à pouvoir mettre la technique au service de la pensée et de l'apprentissage. Voilà. C'est pour ça peut-être que je fonctionne comme ça.
Tout ça avec beaucoup d'empathie, je le suis bodor.
Oui, bah, il faut aimer. Si tu n'aimes pas, tu fais mal.
Si tu n'aimes pas, tu fais pas, ou alors tu fais mal, effectivement. Alors, ce parcours-là que je découvrais l'autre jour, Jacques, à l'occasion de la préparation de cette émission, t'as emmené sur d'autres horizons. On parlait de la chasse à la truite, ça, je découvrais.
Oui.
Tu t'es également occupé de la réalisation de mallettes pédagogiques multimédia pour l'orientation professionnelle adulte, c'est ça?
Oui. Non, pas adulte.
Pas adulte, bon.
Pas forcément, c'est pour tous les publics en grande difficulté, qu'ils soient... adolescent ou adulte.
Et
j'ai simplement fait de l'action recherche pour répondre à des besoins, puisque en France, ces besoins n'étaient pas couverts et qu'on galérait pour orienter ces jeunes. Et plutôt que de continuer à générer de l'échec, il m'est apparu nécessaire de rechercher les éléments de solution qui leur permettrait d'avoir une vie comme la nôtre.
Alors, sans avoir forcément une vision encyclopédiste de tous ces domaines-là, j'ai l'impression que quand même, quand tu te promènes dans des domaines aussi différents les uns que les autres, tu fouilles les choses. Ça fait partie de ton caractère, de ton état état d'esprit.
Oui, je suis un peu minutieux, méthodique, mais aussi bordélique, parce que pour créer...
Ah bon, tu me rassures.
Pour créer, il faut avoir l'esprit qui vagabonde. Il faut avoir beaucoup d'humour aussi. Et non, mais quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout.
Alors, oui, je voulais également signaler que dans la série Tous Azimuts, tu t'es également occupé de mallettes pédagogiques sur la prévention du tabac, la découverte d'une cave coopérative vinicole, pourquoi
oui,
pas.
Oui, ça c'était la découverte d'une cave coopérative vinicole, c'est pas seulement parce que j'aime le Jurançon. Hein.
C'est pas seulement ludique, quoi.
Non, c'est parce qu'en fait, j'avais aussi, dans le cadre de l'orientation professionnelle, mis en place pour que le jeune, le stagiaire, puisse lui-même s'approprier et fabriquer les éléments de son information professionnelle.
Ouais.
Donc, en fait, c'est toute une méthodologie au service du formateur et du jeune qui leur permettait de faire des visites d'entreprise où ils pouvaient faire des livrets, photos, etc., avec une structure établie qui correspondait à la fois à une structure, une méthode, une structure d'information qui correspondait à la fois à ce qu'attend l'entreprise et à ce qu'attend la formation, c'est-à-dire l'apprentissage, la formation en CFA.
Donc du sur-mesure finalement.
Oui, exactement. Et ça permettait aux formateurs, si tu veux, d'avoir un cadre quand ils faisaient des visites d'entreprise et de faire eux-mêmes leurs livrets, photos, etc. Et même de concevoir eux-mêmes leurs CD-ROM que nous, après, on réalisait techniquement, etc. Voilà.
Ce qui permet de s'affranchir de toutes les difficultés techniques en faisant confiance à un spécialiste que tu es, Jacques. C'est bien ça. Hein.
Ben, on est devenu. Voilà. On le devient par un petit peu par obligation, mais aussi par passion, parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Voilà.
Tu es à côté de Jacques Mangantini, qu'on entendra tout à l'heure. J'aimerais, puisqu'il nous a glissé tout à l'heure à l'antenne, ou antenne d'ailleurs, je ne sais plus, que ce n'était pas exactement son dada, la technique. Je pense que vous êtes tout à fait complémentaires l'un comme l'autre. Tu as réalisé ce double DVD sous la houlette du Jazz Hot Club de Pau, Mémoire de Blues, hein, de Jacques Mangantini, qui contient presque 4 heures de documents, quelque chose d'absolument unique, que ce soit dans l'histoire du blues, peut-être dans l'histoire de la musique, je ne m'y connais pas assez, en tout cas dans le monde de l'édition en France, c'est le genre d'objet qu'on ne peut pas forcément trouver sur une tête de gondole à Carrefour. Comment j'ai plusieurs questions préliminaires à la parution de ce mémoire de blues. Comment d'abord est-ce que vous êtes rencontrés les deux Jacques?
Ah, ça c'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Disons que je sais que, comme tout le monde, j'ai connu le nom de Jacques et Marcel Morgantini sur les disques MCM.
MCM,
et
oui.
Et puis ensuite, comme j'habitais Pau, si tu veux, et après, je me suis dit, mais tiens, c'est à Gand, mais à Gand, c'est à côté de chez moi.
Et oui.
Voilà, et c'est à 12 kilomètres de là où j'habitais. Et ensuite, je veux dire, mais j'avais pas pris contact parce que je me suis dit, c'est une star, hein, ce Jacques, donc je vais pas aller les embêter.
Alors ça remonte à combien de temps, Jacques?
Alors ça remonte dans les années, le début des années 90, on va dire.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc
et ensuite, et puis un jour, donc je me suis occupé plutôt de Nico, de Michel, enfin, etc., parce que j'ai enregistré aussi la première cassette de Blues and Trouble à l'époque où Gladys n'était pas encore dans le groupe.
Mmh.
Voilà. Et donc je me suis occupé des archives, de numériser les archives de Nico et Michel. Voilà. Voilà. De
D'accord.
Nico et Toussaint et de Michel Foison. Et puis un jour j'ai dit, mais quand même, Jacques et Marcel Morgantini, cette mémoire, etc. Bon, voilà, comme la mémoire de Nico et Michel. Et donc du coup, en 2000, d'autant que je travaillais dans la ville où habite Jacques,
oui.
La petite bourgade. Donc j'ai appelé au téléphone, j'ai pas osé aller chez eux, donc j'ai appelé, j'ai eu Marcel au téléphone.
D'accord.
Qui m'a dit, mais écoutez, ce serait bien, oui, effectivement, mais il faudrait qu'on se rencontre d'abord et qu'on écoute un peu de musique, voilà.
Très sympa.
Et donc j'ai tardé. Bien évidemment, parce que j'étais trop pris par le travail, voilà, et j'ai tardé, puis un jour, un artisan vient chez moi, je sais pas quoi, il me dit, tiens, je lui dis, tiens, est-ce que votre épouse va écoute encore du blues, va écouter Michel Gladys. Et il me dit, oui, pas trop. Il me dit, et vous connaissez Jacques Morgantini? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, mais vous savez, son épouse est décédée. Ouais. Et alors là, j'ai eu comme un choc.
Oui.
C'est-à-dire que je me suis dit, mais quel idiot tu es, mais quel idiot. Tu as attendu 7 ans, avant de 8 ans, avant de reprendre contact. Et donc, dans la semaine qui a suivi cette information, j'ai appelé Jacques.
D'accord.
Et voilà, et nous avons convenu d'un rendez-vous, et l'histoire a commencé. Donc, ça fait 7 ans maintenant, à peu près, ouais, puisque j'ai mis à peu près 6 ans pour réaliser tout ça. Et voilà, donc voilà un petit
c'est,
peu...
Ça répond à une autre question que j'allais te poser, c'est as-tu connu Marcel Morgantini? Malheureusement donc une seule fois et au téléphone seulement. Voilà, Marcel Morgantini qui nous a quittés, c'était en 2007,
pour
avoir lu ça, et qui est donc, bien sûr, vous le savez tous, ici de l'autre côté du poste, responsable de 17 albums qui sont sortis entre 1976 et 1979 sous le label MCM, qui veut dire donc Marcel Chailleux Morgantini, hein, si j'ai bien tout suivi.
Sachant que... c'est Luc, leur fils, qui a enregistré à Chicago.
Voilà, hein. Voilà.
C'est lui qui est responsable des enregistrements.
Et alors, l'idée de créer ce double DVD, qui s'appelle Mémoire de blues, elle est née du fait que, peut-être, est-ce que je me trompe si je pense que tu lui avais proposé de faire un livre de mémoire au départ?
Non.
Non, c'était pas ça.
Non, j'ai proposé à Jacques, j'ai proposé à Jacques de mettre tout ça en vidéo, quoi.
Ouais, directement.
Jacques était d'accord dans la mesure où il dit je ne veux pas écrire un livre.
C'est ça.
Je ne veux pas écrire un livre parce qu'il y a des tas de choses qui ont déjà été dites et puis ça m'intéresse pas d'écrire des choses comme ça. Et donc la proposition de faire quelque chose de vivant, surtout quand il s'agit de musique, c'est intéressant de l'entendre. La musique, dans un livre, on l'entend pas.
Mais oui.
Et voilà, d'autant qu'on peut y mettre plus d'images, c'est vivant, etc. Voilà, puis c'est un petit peu le monde actuel. Ça permet de partager, de diffuser ça sur plusieurs médiums, pas seulement des DVD, mais il y a d'autres possibilités.
Alors, ce support double DVD, donc, il nous montre en fait deux types de documents. D'abord, des documents d'époque qui ont été tournés par la famille Morgantini, soit à Chicago, soit ici, des photos également, et puis des interviews, plusieurs interviews de Jacques Morgantini à chaque fois, que ce soit chez lui, à l'intérieur, dans le jardin. Il fait toujours beau à Gand et à Pau, bien sûr. Voilà, il a fallu, bien sûr, dérocher tout ça. Tu parles de 5 ans, 6 ans de réalisation au total?
C'est-à-dire que 6 ans de réalisation, sachant que je travaillais entre-temps, et puis, en fait, si on fait le calcul, si on réduit tout ça, ça représente 1 an de travail à temps complet.
D'accord.
Vacances, un mois de vacances compris. Voilà, et ça représente, il y a 12 heures d'interview à peu près, donc ça fait 225 fichiers vidéo, 142 gigas, enfin, tu vois.
Okay,
après, en photo, en image fixe, qui nous ont été fournis par Jean-Pierre Tamazian, qui était photographe de Black and Blue,
ouais.
Par Brigitte Charvolin, qui a encore eu un article d'ailleurs dans Soul Bag ou dans Blues & Co, je ne sais plus.
Brigitte Charvolin qui travaille également pour Soul Bag.
Voilà, ouais. Voilà, et par Luc aussi, les photos de Luc, et aussi les photos de deux ou trois autres photographes.
Mmh.
Et aussi ce que Jacques avait en photo, en papier, si tu veux, là. Donc ça représente à peu près 2000 images fixes. Voilà.
2000 images et puis
plus de 100. Et en audio, je disposais de à peu près 3300 fichiers audio. Alors tout compris, hein, tout confondu, voilà.
On écoutera tout à l'heure Jacques Morgantini nous parler de la réalisation, notamment de ce double DVD. Je voulais savoir si tu avais laissé complètement carte blanche pour la réalisation,
oui.
Ou s'il y avait vraiment des directives très très précises.
Non, il m'a fait entièrement confiance, mais complètement confiance. Bien sûr, parce qu'au début, si tu veux, d'abord il a fallu qu'il juge de l'appertinent de qui j'étais. C'est-à-dire que moi, j'étais éducateur spécialisé, j'étais pas reconnu comme réalisateur dans le monde de la musique. Et donc c'est vrai qu'il a fallu peut-être qu'il vérifie un peu quelle était. Donc je lui ai montré les premières interviews, enfin la première, et il a été un peu voilà, le cadre tenait droit, le son
d'accord.
était bon,
oui.
enfin, bref. Voilà, et après je lui ai montré la première séquence que j'avais faite. Bon, mais là je pense que là il s'attendait pas à ça, et donc à partir de là ça a été facile, dans la mesure où c'est un homme qui est un excellent passeur de mémoire.
Ah oui.
Il a un vocabulaire extrêmement riche, il a une fluidité mentale, une fluidité verbale exceptionnelle. Il a une construction de phrase aussi qui est pertinente. Il a de l'humour, il a de la provocation, mais provocation de bon aloi, hein, j'allais dire.
Bien sûr, mais oui.
Voilà, il y met, et puis surtout, ce qui fait la spécificité de sa parole, c'est que il ne raconte pas les choses comme un historien ou comme un ethnologue ou un anthropologue ou un philosophe de la musique, comme un critique traditionnel, mais plutôt c'est ce qu'il ressent de ce qu'il entend et des relations qu'il a eues avec tous ces musiciens.
Mmh.
Et ça c'est ce côté émotionnel, c'est vraiment très spécifique à lui et peut-être aussi à ce que j'ai souhaité mettre en exergue dans ce document.
Ça transparaît tout à fait au visionnage complet de ce double DVD. Donc beaucoup de rigueur d'un côté avec une mémoire infaillible et puis des anecdotes qui fusent comme ça. On a l'impression que la parole ne va pas assez vite par rapport à la pensée. Et puis d'autre part, voilà, cet humour, ce détachement, un personnage très très goguenard. J'en parle tout à fait librement, d'autant plus que je sais qu'il nous écoute en ce moment. Mais on l'aura tout à l'heure au téléphone. Tu sais qu'il y a des gens qui suivent de l'autre côté du poste l'émission et qui posent également des questions hein, sur le Facebook.
Oui.
J'ai une double question de la part de Pedro Sabater, qui demande d'abord comment trier tout ça, avec deux points d'interrogation quand même, et quel a été le conducteur de ce DVD.
C'est très intéressant comme question. Là, franchement, c'est intéressant comme question parce que au début, si tu veux, j'ai emmagasiné des interviews brutes comme ça, sachant que je lui ai laissé la parole libre.
Oui.
Et donc, je me suis dit, c'est une mémoire. Donc, la mémoire, on va pas la guider. Hein. Il faut d'abord la recueillir. Et donc, du coup, au fur et à mesure, donc j'ai dérushé tout ça au fur et à mesure, mais j'ai aussi construit au fur et à mesure.
D'accord.
Et puis ensuite, j'ai revu ma construction de façon plus logique, si tu veux, sachant qu'au départ, il n'y avait pas de logique. Et donc, je me suis dit, comment je vais le construire ?
Il fallait un plan.
Et donc, du coup, je me suis basé sur ce qu'il disait, et j'ai beaucoup travaillé sur le dérochage, sur comment mettre bout à bout, quoi bout à bout, et surtout, quel contenu. Et ensuite, comment on pouvait aussi mêler la musique, comment on pouvait faire un lien entre les époques des musiciens.
Voilà, ouais.
Ça a été compliqué. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus et j'ai, comme dirait l'autre, j'ai aussi refuseux, quoi. Hein.
Oui, comme dit Pedro Sabater à nouveau sur Facebook, un énorme puzzle, effectivement. Alors, peut-être que, voilà, c'est pas tout à fait comme la construction d'un site internet où on enlève, on rajoute quand on veut. À un moment donné, il faut mettre un cellophane et dire le produit est fini, il est à vendre. Même si, comme pour un disque par exemple, même si on aurait aimé ajouter, enlever, ça m'amène à une autre question qui est posée cette fois-ci par Alain Jalbert, qui demande: Jacques Morgantini doit avoir des enregistrements qui n'ont jamais été édités, pense-t-il le faire dans le futur ?
Nous en avons parlé à l'instant tout à l'heure.
C'est vrai.
Voilà, donc ça pour l'instant, ça reste, si tu veux, un projet qui est dans le couloir.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, il faudra passer un petit coup de balai dans le couloir, alors peut-être dans pas longtemps.
On va s'en occuper, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure et effectivement, c'est quelque chose qui, en tout cas, si c'est abordé et si on en a parlé de façon... un tout petit peu à peine plus précise, et effectivement, c'est quelque chose qui est envisagé. Oui.
Quels sont les échos ? Tu disais que l'album, le double DVD, s'est sorti au mois de février dernier. Il y a déjà des échos, forcément, que ce soit dans la presse spécialisée ou non. Autour de toi, tu entends des critiques, quelles qu'elles soient. Quel est l'accueil qui est fait à Mémoire de Blues ?
D'abord, je dirais que sur le plan global, que ce soit dans nos relations ou sur le plan ou avec les journalistes, cet accueil, il est positif. Il est, de manière générale, il est très bien. La seule chose, peut-être, qu'on pourrait, qu'on aurait pu nous, ce dont j'avais peur, c'est que deux heures, c'est un peu long, quoi. Et en fait, chaque fois, les gens disent, qu'ils soient néophytes ou passionnés, disent, une fois qu'on est rentré dedans, on va jusqu'au bout. Au moins pour un DVD. Après, il faut faire une pause, il faut boire deux pastilles. Et puis, ou trois Jurançon.
Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà. Ouais. Plus du Jurançon, d'ailleurs, parce que c'est Gand, Jurançon. Pour aller de Gand à Pau, il faut passer par Jurançon, si j'ai bien compris. Hein.
Non.
Non ?
Oui.
Ah, ça dépend de la route.
Jurançon, c'est la cave coopérative. Ici, on est au milieu des vignobles, là, il y a mieux quand même.
Je me souviens d'une visite à la cuvée Thibault, c'était quelque chose. Vous habitez vraiment une région magnifique, tous les deux. Jacques Morgantini, qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Jacques Gasser, réalisateur de ce double DVD Mémoire de Blues, sous la houlette du Jazz Hot Club de Pau Productions. Voilà ce double DVD qui est sorti, qui est disponible. Je me mets toujours à la place de l'auditeur qui, à l'aune de l'interview, aimerait se procurer l'objet. Comment fait-on ? Est-ce que c'est distribué partout ? Est-ce qu'il faut vraiment frapper une porte puis une autre, ou est-ce que c'est facile de se le procurer tout simplement?
Alors pour l'instant, pour se le procurer, il faut aller sur le site mémoiredeblues.org,
oui.
Et on peut le commander là.
Mémoire voilà. Sans
S. Ou alors on le commande directement chez Jacques Morgantini à Gand. Voilà, mais tout est sur le site de mémoiredeblues.org.
Alors, je vais mettre, bien sûr, le lien sur le Facebook, hein, puisque le fil d'actu continue à se dérouler. Et on va écouter un peu de musique, Jacques. Je sais que tu es à côté de Jacques Morgantini, et bien entendu, au fil de l'interview qui va suivre, tu interviens quand tu veux. De toute façon, tu es chez toi, c'est ton téléphone, tu fais ce que tu veux avec ton téléphone, d'accord ?
Oui, c'est une petite phrase qui résume un peu Jacques tout à l'heure,
oui.
Je te dirais que j'ai écrite un jour, qui résume un peu, qui est un peu humoristique aussi.
D'accord. Si je te dis Big Bill Bronzy, qu'est-ce que tu me réponds, Jacques Gasser, Jacques ?
Alors, Big Bill Bronzy, d'abord, ce que je réponds, c'est que c'est certainement grâce à lui et qu'en fait, en l'écoutant, quand je faisais mes devoirs de philo dans le noir, dans ma chambre, avec une petite lampe, j'écoutais plus Big Bill Bronzy que je ne faisais de philo, quoi. Donc j'avais 19 ans et je pense que tout a commencé là.
Et alors que Big Bill Bronzy était déjà décédé finalement, hein. Il a disparu en 1958, je crois.
Oui, je n'en sais rien du tout, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait drôle quand j'ai connu la personne qu'il avait fait venir à Pau.
Ah oui.
Ça m'a un peu bouleversé. D'autant que la première diffusion de Mémoire de Blues, enfin, en tout cas la partie 1, puisque la partie 2 ne sera pas diffusée publiquement pour l'instant, j'ai tenu à ce que cette diffusion se fasse au Méliès, c'est-à-dire l'endroit où Jacques avait fait intervenir Big Bill Bronzy la première fois ici, voilà.
C'est tout à fait historique, hein, effectivement. On va écouter Big Bill Bronzy. Jacques Gasser, merci beaucoup pour cette première interview. Et puis à tout à l'heure, hein, parce qu'on reste ensemble. C'est la même ligne téléphonique, hein, pour Jacques Morgantini tout à l'heure. Merci Jacques.
Oui, merci.
À très bientôt.
My baby leaving this morning, going to catch that 2-2 train. Say my baby leaving this morning, going to catch that 2-2 train. Lord, when she got on board, she almost out of my brain. Oh Lord, I hear the whistle blow. Oh, babe, I hear the whistle blowing. Said she blows just like she ain't gonna blow no more. Train is coming, Lord, I'm gonna get on board. Babe, that 2-2 train is coming, Lord, I'm gonna get on board. Not what I got on my mind, no one in this world that knows. Down in trouble, been blue as I can be. Down in trouble, as blue as I can be. I get a feeling lonesome, think the way you treated me.
Retour aux fondamentaux grâce à Jacques Gasset, tout à l'heure Jacques Morgantini, c'était Big Bill Bronzy. On va écouter à nouveau John Lee Hooker, comme tout à l'heure c'était le titre Teaching the Blues. Voici un tube archi connu de John Lee Hooker, juste après lequel on écoutera un nouvel extrait du disque du mois et ensuite l'interview de Jacques Morgantini.
Down, right on for your feet, take you home with me. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knock me dead, right on for my feet. How, 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 how.
Whoa, whoa, yeah. Baby, I love come on, come on, now, baby. I want you, baby. No, baby. No, baby. Put on your mini dress, baby. Put on your mini dress, baby. Put on your mini dress, baby. And walk, and talk, and walk, walk. Yeah. Baby.
Voilà, John Lee Hooker, enregistré il y a quelques années, bien sûr, avec Boom Boom, l'un de ses fameux tubes. On poursuit avec un extrait du disque du mois. Il s'agit de l'album de Julien Brunteau. Si vous n'étiez pas là au début de l'émission, vous avez déjà loupé un titre. En voici un second. L'album, c'est Playground. Et on va écouter un instrumental, un boogie, bien sûr, qui s'appelle Monty's Boogie. Voici Julien Brunteau. Et juste après, Jacques Morgantini en direct live dans les studios du 666. Voilà, Julien Brunotto, extrait de son album Playground, et je reprends le téléphone pour adoubler à nouveau Jacques Gasser, toujours de l'autre côté du fil à Pau.
Absolument, oui, au milieu des vignobles de Girançon.
Ah là là, tu nous fais rêver, moi qui étais il y a quelques jours, moi qui étais l'autre jour au milieu des vignobles du Coteau du Layon, voilà, c'est une autre aventure, c'est une autre histoire. Jacques Gasser, est-ce que je peux te demander une faveur?
Oui.
Comme ça, en direct. Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, ça y est, vous l'avez fait. Bon, merci, au revoir. Est-ce que je peux te demander de nous présenter l'homme qui se trouve assis à côté de toi, qui s'appelle Jacques Morgantini?
Oui, alors, en fait, il semblerait que ce soit une icône du blues. Tu vois, une sorte d'iconoclaste pour la bourgeoisie bien pensante. Et un iconoplasticien musical, si tu veux.
D'accord.
C'est un mec qui est différent dans l'approche et la compréhension de la connaissance du blues. D'ailleurs, à ce propos, on a failli le pendre à de multiples reprises. Hein. Voilà. C'est en fait cette différence-là qui fait la référence.
Bonjour Monsieur Morgantini, comment ça va?
Eh bien, mon jeune ami, ça va très bien. J'ai appris que vous étiez né, je crois, en 1963.
C'est ça.
Ce
exactement.
Qui me fait prendre de la hauteur par rapport à vous.
Ben, je crois, hein, effectivement, on vous doit le respect, parce que 1924, c'est une autre époque qu'on n'a pas connue. Et voilà, ça veut dire que, par exemple, vous aviez 20 ans lors de la libération, débarquement. Voilà, ça, c'est des choses qui font rêver hein, les gens, et encore plus les jeunes, parce que mon jeune ami, c'est bien gentil, mais à 53 ans, je prétends plus trop à ce titre. Il y a des gens, voilà, qui continuent... Il continue à naître tous les jours et pour certains, à perpétuer un petit peu le peu du grand souffle que vous avez su apporter à la France. Et donc, je vais parler de quoi? Bien de tout simplement l'apport du blues en France, parce que je crois que c'est à vous qu'on le doit.
Eh bien, vous êtes bien honnête, comme dit ma crémière. Alors, je dois vous dire une chose, c'est que j'ai rencontré, si je peux me permettre de parler pendant quelques secondes...
On peut, c'est fait.
...interrompu par vous. J'ai connu le blues assez vite, parce que j'ai été, en 1938, j'ai rencontré le jazz, et je ne m'en suis jamais relevé. Et là... j'ai été particulièrement épris de la musique que j'entendais, par exemple de l'orchestre de Count Basie, où il y avait ce qu'on a appelé un blues shouter, un chanteur de blues, mais au sein des orchestres de jazz comme Jimmy Rushing.
Ouais.
Et il y en avait un autre qui a toujours été un de mes favoris, sinon le favori, c'était Big Joe Turner, le grand chanteur de Kansas City, accompagné par Pete Johnson. Et ceux-là m'ont amené ensuite à d'autres musiciens. Et un jour, je dois vous dire que très vite, dès la libération, j'ai eu des contacts grâce à mon ami et maître de l'époque, Hugues Panassier. J'ai eu des contacts avec des collectionneurs américains et on procédait, comme je le dis dans Mémoire de blues, par échange.
Oui, voilà, par le troc en fait, sans forcément d'échange d'argent.
J'envoyais 12 disques, ils m'envoyaient 12 disques, etc. Bon, et alors, très vite, j'ai vu sur les listes que mes amis me proposaient des noms que je ne connaissais pas. Sonny Boy Williamson, Big Bill Bronzy, Big Maceo, etc. J'ai demandé à un, mais qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, ce sont des chanteurs de blues, mais c'est des chanteurs de blues ruraux. J'ai dit, ben vous m'en envoyez quelques exemplaires pour que je vois ce que c'est.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, hein, c'est ça l'idée.
Comment?
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est ça.
Hein. Voilà. Et alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ben, la vérité, elle est là. Le jazz, s'il existe, c'est parce qu'il y a eu ces gens-là avant. Et j'ai été un des premiers à m'intéresser vraiment au blues, je peux le croire et le dire, en Europe. J'ai reçu des disques de Johnny Hooker en 1945, par exemple son premier grand tube, Boogie Chillin', oui. Le premier disque qu'avait enregistré Muddy Waters pour la marque Avanche, c'était Aristocrate,
oui.
I Feel Like Blowing My Horn, et tous ces titres-là, j'ai reçu ça. Et j'ai été absolument ébloui. Et je me suis rendu compte, c'est que au Club de France, dont j'avais été élu, enfin désigné par Panassier comme étant le vice-président, et ce pendant 22 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait les amateurs de jazz. Alors eux, c'était Lou Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Fats Waller, et puis des grands solistes. Mais quand on leur disait, tiens, mais écoutez, ces musiciens de blues, oh non, 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 on ne veut pas entendre ça. Hein.
Est-ce que ça veut dire, monsieur Morgantini,
pas Morgantini, Jacques.
Jacques, pardon. Est-ce que ça veut dire, Jacques, que déjà à l'époque, il y avait une querelle des genres entre amateurs français, entre les amateurs de blues et les amateurs de jazz?
Ben, écoutez, il n'y avait pas d'amateurs de blues. Hein. Moi, j'ai été celui qui a défriché ça. Je suis bien obligé de dire hein, parce que...
Oui, mais alors, comment est-ce qu'on explique que ces gens qui étaient éclairés et puis qui aimaient une musique outre-Atlantique n'étaient pas si ouverts que ça à ce fameux blues?
Ben oui, il y en a qui sont restés toujours. Je peux vous dire que j'ai des amis intimes, hein, depuis 1940, des amis qui étaient incollables sur tout ce qu'avait fait Coleman Hawkins ou Johnny Hodges ou des gens comme ça, tous les grands solistes du jazz, hein. Eh bien, quand je leur disais, mais écoute ça, oh non, 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 moi c'est braillard, wow. Ça me dit rien. Ils n'étaient pas attirés, c'était pas de l'hostilité, ils n'étaient pas attirés par ça.
Les Blue Shooters.
Absolument stupéfait.
Les Blue Shooters qualifiés de braillard, incroyable.
Voilà.
Il y a des querelles célèbres. Hugues Panassier a suscité pas mal de remous. Hein, je ne sais pas si à un moment donné, vous vous souvenez, Jacques, à la disparition de Big B Bronzy en 1958, il y a des gens qui ont dit que le blues était mort en même temps.
Oui, c'est ça. Ben, je peux vous dire à propos de Big B Bronzy ceci, car c'est la vérité historique. J'ai su par un correspondant américain qui s'appelait James Martin. Je me souviens de son nom, il était étudiant à l'université d'Ann Arbor, dans le Michigan, c'est pas loin de Chicago. Mmh. Et il m'écrit un jour, tiens, j'ai cru voir dans les couloirs de l'université,